RGB.
La radio du collège Jacques Brel.
Nous continuons nos émissions littéraires avec les 6e forums. Les 6e forums ont écrit un conte, donc je vous parlerai tout à l'heure. Mais avant qu'on commence ce conte, quelques élèves ont envie de vous présenter des livres qu'ils ont beaucoup aimés et qu'ils ont découvert dans le cadre de l'opération Coup de cœur en librairie. Nous avons Neyla et Mathéo qui commencent. C'est Neyla qui veut nous parler d'un livre. Et voilà, ça lui tenait à cœur de lui en parler. Nous lui laissons la parole.
Le cahier de Leïla est un livre qui parle d'une petite fille qui a dû quitter l'Algérie pour partir vivre en France pour rejoindre son père. Sa vie est compliquée parce qu'ils sont ils sont pauvres et elle a du mal à se faire des amis et tout ça. C'est compliqué et beaucoup de gens la jugent car elle a un accent et voilà quoi, elle est pas comme les autres, enfin elle est algérienne, du coup elle est foncée et tout ça, voilà.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre, Neyla?
Le fait que malgré qu'elle a eu du mal à avoir des amis, qu'elle continue sa vie sans y penser et en étant heureuse d'être ici en France.
Tu l'as trouvée très, très courageuse en fait.
Oui.
Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu penses que ça t'a particulièrement touchée, cette histoire?
Parce que mon père est algérien et lui aussi il a dû quitter l'Algérie. Et donc, je comprends un peu quel parcours elle a dû vivre.
Tu t'es reconnue dans cette histoire?
Un petit peu, oui.
Ton père t'a raconté comment il a vécu en arrivant en France?
Oui.
Voilà. Et ça t'a donc beaucoup parlé pour ça?
Oui.
D'accord. Quelqu'un veut faire un commentaire? Quelqu'un à part Neyla a lu ce livre? Merci Neyla pour cette présentation. En tout cas, moi, ça me donne envie de lire ce livre. Et si c'était le but, c'est réussi.
Merci.
Mathéo aussi veut parler d'un livre. Alors, pas du tout le même style, hein, si je crois comprendre. Vas-y Mathéo, présente-nous ton livre.
Le livre s'appelle Le slip de bain, ça raconte l'histoire d'un garçon qui va vivre chez ses grands-parents avec ses cousins et il rencontre plusieurs problèmes durant ses vacances chez ses grands-parents. À un moment, il va à la piscine et en fait, quand il saute du plongeoir, il a un petit problème. Il y a son maillot de bain. Ah. Qui part. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est quand il prépare une boum et qu'il ne sait pas comment faire et qu'il demande de l'aide un peu à du monde. Et qu'au final, après, ça se passe super bien.
Donc tu as apprécié ce livre?
Oui.
Et tu t'es dit que la lecture, tout compte fait, ça pouvait être bien?
Oui.
Et je crois que c'est le but de ce genre d'opération et tant mieux. Merci Mathéo pour la présentation de ce livre. Il est disponible au CDI. Donc voilà, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller l'emprunter pour le lire, ce sera avec plaisir, y compris celui que Neyla vous a présenté. Ils sont disponibles au CDI. Merci Neyla et Mathéo. On va passer maintenant au compte qu'ont écrit les 6e forums. Alors, ils ont travaillé avec deux personnes, avec leur professeur, évidemment, Madame Akou, puis Madame Luxac, professeur de français, mais ils ont aussi travaillé avec deux personnes qui exercent leur activité dans le canton. Ils ont donc travaillé ce conte avec Madame Sluchel Hubert, une conteuse qui écrit des histoires en lien avec le patrimoine local, et aussi avec Monsieur Grant. Monsieur Grant, c'est un historien amateur, passionné, compétent et qui est spécialiste de l'histoire du canton. Alors, avec l'aide de leur professeur et de ces deux personnes, ils ont écrit un conte. Ils vont en faire la lecture en direct au micro de RJB. Et c'est un conte qui a été construit autour de la construction de la gare de Beuzeville au 19e siècle. Nous ferons une pause musicale en changement de plateau et on commence la lecture du conte. Attention, c'est une vraie histoire créée par les enfants de 6e forum. Je précise qu'il y a une élève qui est absente et c'est moi qui ai son texte dans la main. Soit j'ai un élève qui prend sa place comme ça, vas-y Robin, et soit je fais le texte. On va essayer comme ça. Vas-y Robin. Excusez-nous, c'est du direct, mais on est prêt? Attention, c'est le début de l'histoire. N'oubliez pas de lever la main pour prendre la parole.
Beuzeville était un gros centre d'activité agricole. Pas moins de 5 foires annuelles, sans compter les marchés tous les mardis. De nombreux paysans y venaient vendre leurs produits, chevaux, vaches, cochons, moutons, volailles, céréales, légumes, fruits. Ils repartaient chez eux à la fin du marché, les paniers pleins de provisions pour la semaine.
La route était longue et difficile pour beaucoup d'entre eux. En 1867, Beuzeville n'était pas encore desservie par des routes empierrées et entretenues, comme celles qui relayaient Honfleur à Lisieux, ou encore Pont-Audemer à Lisieux, mais par des petits chemins souvent boueux dès qu'il pleuvait.
Les derniers marchés avant l'automne étaient particulièrement fréquentés. Les moissons étaient terminées, les animaux s'étaient engraissés, les paysans profitaient des chemins encore praticables avant les pluies d'automne.
Comme tous les mardis, Anthelme, le tenancier, tout relais de poste, se lavait bien avant l'aube pour préparer l'arrivée de la diligence. L'afflux des paysans attirait de nombreux voyageurs, comme commerce et surtout l'arracheur de dents toujours très attendu. Anselme allumait les bougies des réverbères sur la façade du relais. Il fut rejoint par sa femme et son fils, Brice, qui commencèrent à préparer la salle de l'auberge, où se presseraient bientôt les voyageurs. Dans les écuries du relais, les chevaux s'agitaient et hennissaient. Les palefreniers s'apprêtaient à les nourrir. L'activité du relais de poste de Beuzeville était florissante. À peine le soleil levé, la diligence arriva, les voyageurs descendirent et le cocher laissa son attelage au palefrenier du village, du relais. Ceux-ci s'appressèrent de dételer les chevaux pour les faire boire à la grande mare, en face du relais de poste.
Puis, ils les conduisèrent chez les maréchal Ferrand, qui avait déjà mis sa forge à chauffer. Sur la grande place, les potiers, cordiers, sabotiers, marchands de tissus et autres, commerçants itinérants, installaient leur étal et disposaient leurs marchandises.
Jules et sa femme étaient déjà en place. Ils étaient arrivés tirant et poussant une charrette à bras emplie de bois. Jules alluma un feu et disposa dessus de grandes grillois.
Sur une table, à son côté, sa femme tranchait des morceaux de cochon et de pain. Dès qu'il y aura suffisamment de braise, Jules ferait griller la viande bien que l'heure étale, soit à l'écart du marché. L'odeur délicieuse de la viande grillée attirait les clients affamés, partis de très bon matin chez eux.
Tous les commerçants du bourg étaient déjà ouverts. Le sellier était à la tâche pour terminer les réparations des harnais que les paysans lui avaient confiés. L'épicier entassait ses caisses de marchandises devant sa boutique. Le boulanger remplissait ses étagères avec le pain qu'il avait cuit pendant la nuit. Les cafés avaient dressé de grandes tables devant leur devanture et remplissaient des pichets de cidre en attendant les premiers clients.
La famille Béguin arrivait comme à son habitude parmi les premiers paysans. Ils étaient partis de leur ferme 2 heures plus tôt, à la lumière des bougies de leur lanterne. C'était une belle famille, les parents avec leurs 5 enfants, tous en âge de travailler, 3 fils d'une 20aine d'années, une jolie jeune fille, Paulette, et Jacques, le petit dernier, encore adolescent.
Les Béguin venaient de Neuilly, près de l'ancien château fort, où ils tenaient une belle ferme. Leur charrette, tirée par leur cheval, de ferme était chargé de caisses de volailles vivantes et de paniers d'œufs bien protégés avec de la paille. Elle était conduite par Madame Béguen, sa fille Paulette, à ses côtés.
Derrière la charrette, suivaient à pied Monsieur Béguen et ses quatre fils, menant à la corde trois des plus beaux de leurs bœufs. Madame Béguen, Paulette et le petit Jack emmènent le cheval et la charrette à une place à proximité de la forge, où ils dételèrent. Jack confia le cheval au forgeron pour la pose de nouveaux fers.
Pendant ce temps, Monsieur Béguen et ses autres fils conduisit rapidement les bœufs sur la grande place. Les autres paysans arrivaient et, comme eux, ils espéraient vendre au meilleur prix leurs produits.
Rien n'était à négliger pour faire une bonne vente. La préparation des animaux arrivait tôt pour avoir une bonne place sur le marché. Vers midi, comme chaque mardi, toute la famille se retrouverait à l'étal de Jules pour se restaurer avant de repartir vers leur ferme. La grande place centrale commençait à devenir très bruyante. Les gens se reconnaissaient, se hélaient, s'apostrophaient, les animaux inquiets, beuglés, bêlés, hennissaient, caquetaient.
Paulette prépara un panier d'œufs et trois poulets qu'elle emmena joyeusement comme chaque semaine à l'auberge du relais de la poste. Elle avait hâte d'y retrouver Brice, son amoureux. Madame Béguen prit le reste des œufs et des volailles et rejoignit la grande place. Elle s'installa, comme chaque mardi, à côté de son amie Marie Carrel, qui venait de se marier avec un jeune paysan propriétaire d'une petite ferme. Il avait trois vaches et elle vendait au marché son beurre, de la crème, du lait frais et des légumes de son potager. Fière, Marie annonça à son amie qu'elle attendait son premier enfant.
Elle s'était procuré une chèvre pour nourrir son bébé en cas de besoin. Brusquement, les discussions baissèrent d'un ton. Un lourd chariot tiré par deux gros chevaux, chargé de sacs de grains, entrait sur la grande place. Il était suivi de plusieurs ouvriers menant quatre bœufs, puis d'une. Deux heures plus tôt, à la lume... Calèche transportant un couple et leur jeune fils d'une dizaine d'années. Regarde, voici Jean-Lombe, notre mère, sa femme et son fils, dit Madame Béguen à son ami. Il a fait une belle récolte, lui aussi.
La famille Lombe descendit de la calèche et un ouvrier amena l'équipage hors du marché. Le chariot chargé de sacs de grains continua jusqu'à la halle aux grains près de l'église pour y être déchargé. Les ouvriers qui menaient les bœufs les installèrent sur la grande place. L'arrivée du maire et de sa famille était toujours très attendue. Comme chaque mardi, ils firent le tour de tous les commerces et des étals. Serraient les mains, prenant des nouvelles de chacun.
À chacun des paysages, ils achetaient celui-ci des fruits et des légumes, au suivant des œufs et des poulets, à un autre du beurre. Les quantités étaient conséquentes. Jean Londe était propriétaire de la plus grosse ferme de Beuzeville et il avait une dizaine d'ouvriers à nourrir. Il avait aussi sa réputation de maître à tenir.
Ce jour-là, le maire invita tous les hommes à le rejoindre à la mairie. Il avait une annonce importante à faire. Les hommes s'organisèrent pour confier leurs stands et leurs animaux en proches et le suivirent.
Chers concitoyens, je suis heureux de vous voir aussi nombreux. Nous sommes tous pressés de profiter du marché. Aussi, je parlerai peu pour que nous puissions tous y repartir très vite. Mais l'annonce que je dois vous faire est importante. Les conseillers municipaux et moi-même avons été conviés la semaine dernière. Le 23 août, à l'inauguration de la gare ferroviaire de Pont-Audemer, ce fut une fête à la hauteur de l'événement. En présence du préfet, du député, du conseiller général, du conseiller municipal de Pont-Audemer, du représentant de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Tous les maires et conseils municipaux des communes du canton de Pont-Audemer et de Besuil étaient conviés. Les gens sont venus très nombreux. Il y a eu des fanfares tout au long de la journée. Certains d'entre vous y étaient. Ils vous raconteront avec main détail. Je me dois de vous souligner la grande importance de cette voie de chemin de fer pour le développement économique de Pont-Audemer avec le représentant de la compagnie de chemin de fer de l'Ouest. Il envisage de prolonger la voie. Il pense à deux directions possibles, vers Berville pour rejoindre Le Havre ou vers Besuil pour rejoindre Quatteville, Honfleur et Lisieux. Rien n'est décidé. Compte tenu des enjeux, il fallait que je vous en fasse part au plus vite pour que vous puissiez en discuter entre vous. Sur ce, je vous laisse à vos affaires.
Abasourdis, les hommes sortirent de la mairie et rejoignirent leur stand.
Le projet d'une voie ferrée et d'une gare de Besuil s'invita dans toutes les discussions.
Le marché ne s'était jamais terminé aussi tard. Les cafés n'avaient jamais été aussi animés, puis chacun repartit dans son foyer, laissant les commerçants du village aussi perturbés que les paysans.
Les marchés de l'automne et de l'hiver qui suivirent alors traditionnellement moins importants en raison des difficultés d'accès au bourg de Besuil attirent cette année-là beaucoup plus de personnes.
Plus que le marché agricole, c'était avant tout l'occasion de discuter de ce projet de voie ferrée.
C'était la première partie du conte. On fait une pause pour changer le plateau et on continue le conte ensuite.
Thank you.
retrouvons sur le plateau de RJB avec les élèves de 6e B pour la suite du conte qu'ils ont écrit avec un historien et une conteuse et leur professeur de français. Nous étions donc en 1867. La vie suivait son cours à Beuzeville avec les marchés, les chevaux, les charrettes. Et le maire annonce le projet de construction de la gare de Beuzeville avec le prolongement de la voie ferrée. Et alors, on va voir comment vont réagir les habitants de Beuzeville à ce moment-là.
Le jour du marché, l'auberge du Cochon d'Or ne désemplissait pas. Les marchands de bestiaux et les paysans s'y retrouvaient pour conclure leurs transactions devant un verre de cidre et s'échanger les billets.
Jean Londe y avait sa table en tant que maire et en tant que propriétaire de la plus grosse ferme de Beuzeville.
Je ne veux influencer personne, mais si nous avions une gare à Beuzeville, nous pourrions envoyer facilement nos produits vers Honfleur, Lisieux et Pont-Audemer, peut-être même beaucoup plus loin. Nous pourrions produire beaucoup et beaucoup plus et vendre facilement.
Autour de lui, les paysans acquiescèrent. Quand le chemin était boueux, il était difficile d'amener des bestiaux ou de lourds chariots de céréales, de pommes ou de pommes de terre jusqu'à Beuzeville. Une gare ouvrait de perspectives. Ils pourraient en amener beaucoup plus quand le temps était favorable.
Les commerçants du bourg, l'aubergiste du Cochon d'Or, le boulanger, les artisans, les banquiers y avaient une opportunité de prospérer. Plus il y aurait d'échanges, plus il y aurait de monde et d'argent qui circulerait.
Les arguments de chaque groupe s'affûtaient. Chacun tentait de rallier, de convaincre un voisin, un ami. Toute la population fut rapidement concernée et les discussions faisaient rage. Paulette et Brice étaient pris en étau entre les deux camps de leurs parents.
Soudain, en 1870, des bruits d'une guerre à venir se firent entendre. Ils arrivèrent par les voyageurs qui descendèrent au relais de poste. Ce fut d'abord très vague, puis la guerre fut imminente. Il ne faut plus question de la voie ferrée. La guerre avait pris tous les esprits, rassemblé toute la population dans la peur de ce qui pourrait advenir.
Sans que qui que ce soit ne comprenne vraiment ce qui s'est passé, la France avait déclaré la guerre le 19 juillet 1870 à la Prusse, qui s'était alliée aux autres États allemands.
Tous les hommes en âge de se battre, paysans, ouvriers ou commerçants, furent mobilisés. Quand Brice annonça à Paulette sa mobilisation, elle fut désespérée. « Ne pleure pas, Paulette. Je reviendrai vite et nous nous marierons dès la fin de la guerre. » La promesse de Brice la calma un peu, mais aussitôt Brice parti, l'angoisse la prit de façon permanente. Comme pour tous ceux qui la laissèrent partir un fils, un enfant ou un mari.
Il ne restait que les femmes, les enfants, les hommes les plus âgés. Les impôts furent prélevés pour financer la guerre. Les chevaux, les fourrages, le bétail, les grains, les pommes de terre furent réquisitionnés pour les besoins de l'armée. La population ne rechigna pas à l'effort de la guerre. N'est-ce pas pour nourrir leurs enfants et maris partis au combat? La moisson se fit pénible sans les hommes et avec les rares chevaux qui restaient dans les fermes.
Les Allemands avancèrent très vite. Fin 1870, un bataillon de l'armée française en débâcle se retrancha à Pont-Audemer. Mais elle fut rapidement rattrapée par l'armée prussienne. On apprit que Paris était assiégé. Les Parisiens subissaient la famine. Pour survivre, ils avaient mangé les chevaux, puis les chiens et les chats, ils en étaient à se nourrir des rats.
La France capitula le 29 janvier 1871, mais l'armée prussienne s'installa en armée d'occupation et un bataillon resta à Pont-Audemer. Après les réquisitions pour l'armée française, ce furent celles par les soldats allemands affamés. Ils vidaient les boutiques des commerçants, piller les fermes, emmener les grains, les vaches, les chevaux, les volailles et tout produit dont ils pouvaient se nourrir.
La région était au plus mal. Toute la population souffrait. Ce n'était que faillite, chômage, misère. Le marché de Beuzeville, autrefois si dynamique, n'était plus que l'ombre de lui-même. Les auberges et la plupart des commerçants avaient fermé. Il n'y avait plus de bétail ni d'étal sur la grande place. Le boulanger ouvrait toujours le mardi, surveillé par des soldats allemands qui veillaient à la distribution rationnée du pain. Le pain de guerre n'avait guère à voir avec celui d'avant-guerre. Le boulanger manquait de farine de blé. Il devait y adjoindre du son, de l'avoine, des châtaignes, des glands, des vesses pour satisfaire en quantité les besoins de la population. Les gens ne venaient plus au marché que pour s'approvisionner en pain de guerre indigeste et avoir des nouvelles de la guerre et de leurs soldats.
Madame Béguen et sa fille arrivèrent à pied. Paulette se dirigea directement vers le relais de poste. Elle espérait des nouvelles de son Brice par ses parents. Hélas, aucune. Le relais de poste était fermé, faute de chevaux, de voyageurs, de palefreniers partis à la guerre. Madame Béguen fut contente de retrouver son amie Marie Carrel sur la grande place pour échanger quelques nouvelles.
Il ne nous restait plus grand-chose pour subsister, alors la réquisition. Et les Allemands sont venus à la ferme. Heureusement, nous avons entendu arriver Paulette et son jumeau et son jeune frère, le petit Jacques. On fuit les bois avec le cochon et notre vache qui va bientôt avoir un veau. À la ferme des soldats, on prit tout ce qu'il restait. Le cheval, les deux autres vaches, les cochons, les volailles. Mon mari a voulu s'interposer et les soldats l'ont battu. Depuis ce jour, il doit rester allié. Par chance, le lendemain, une poule suivit la dizaine de poussins et réapparut. Je la croyais emmenée par les Allemands, mais elle devait couver dans un endroit bien caché. Il ne restait plus quelques ces poussins.
Les Allemands sont venus également chez moi, dit Marie Carrel. Comme mon mari est parti à la guerre, je suis seule avec mon enfant. J'ai pris peur, je l'ai pris dans mes bras et je me suis cachée avec lui dans les bois.
Ma chèvre nous a suivis. Hélas, quand je suis rentrée chez moi, ma dernière vache avait été emmenée et tout avait été pillé, même mon jardin. Ils ne m'ont laissé que les légumes abîmés et les plus petits. Il ne me reste que le lait de ma chèvre pour nous nourrir et quelques pots de miel que j'ai pu récolter dans la forêt.
Je serais vraiment ravie d'échanger un pot de miel contre un lapin. Notre petit Jacques a posé des collets et a pu en attraper un ce matin, lui dit-elle à voix basse en faisant discrètement dépasser de la poche de son tablier deux bouts d'oreilles fauves. Avec une bonne salade de pissenlit, vous pourrez vous régaler.
Les transactions se faisaient sous les manteaux à l'abri des regards indiscrets. Les soldats allemands rôdaient à l'affût de tout victuaille à confisquer. Les gens s'échangeaient discrètement des morceaux de cochon salé, miraculeusement sauvés du pillage. Ces animaux braconnaient quelques pommes de terre et légumes pour la soupe.
J'interviens dans ce conte car les enfants ont interverti deux chapitres. Là, nous étions dans le chapitre de la guerre avec les Prussiens. Et ce que vous allez entendre tout de suite aurait dû arriver avant. C'est la réaction des habitants lorsque le maire annonce la construction de la gare. Et donc, les habitants réagissent de quelle façon? C'est à vous, Liam.
Au relais de poste, Anselme était effondré. Rendez-vous compte, si le chemin de fer passe et s'arrête à Buzzville, le relais de poste va disparaître. Plus d'auberges, plus d'écuries. Les voyageurs prendront le train. Ah, bien sûr, ils disent que ce n'est que pour les marchandises. Mais on sait bien ce qui va se passer. Les voyageurs prendront aussi le train. Ma famille et moi, mes ouvriers, nous serons tous au chômage.
Le marchand de chevaux s'était rangé du côté d'un sème.
C'est sûr, si on fait venir le chemin de fer à Buzzville, il n'y aura plus besoin de chevaux pour transporter les marchandises et les voyageurs. Et toi aussi, le maréchal Ferrand. Tu n'auras plus de travail comme tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec les chevaux.
Quel paysan sera à lire au groupe pour différentes raisons? Où va donc passer la voie de chemin de fer si elle doit passer sur mes terres? Couper ma ferme en deux, je suis ruiné. Et je ne serai pas le seul, s'inquiéta Scarel.
Et qui va payer la voie de chemin de fer? Ce sera de nouveaux impôts? On en a déjà suffisamment. Je viens de m'installer sur la ferme. Je ne pourrai pas payer plus, s'inquiéta un autre.
Moi, je suis tranquille dans ma petite ferme, isolée dans ma vallée. Je n'ai pas envie que des gens débarquent du train, viennent chez moi sans y être invités.
Alors, nous avons repris l'ordre du compte. Les habitants réagissent à l'annonce du maire de faire la gare. La guerre avec les Prussiens arrive et on est sur la fin de la guerre, je pense. Maëlle, c'est toi qui commences? On y va.
Le moment tant attendu arrivait enfin. Le 6 mars 1871, les soldats allemands partirent de Pont-Audemer. Ils rentraient chez eux, laissant le pays dévasté mais soulagé.
Les soldats français, démobilisés, rentrèrent un à un dans leur foyer. Hélas, beaucoup d'hommes ne reviendront pas. À la fin des Beguen, sur les trois fils partis, seul l'aîné revint. Chez Jean Londe, seuls trois ouvriers furent de retour. Alors que Marie Carrel, désespérée d'avoir de nouvelles de son mari, un mois plus tard, elle vit arriver à la ferme un homme épouvantable, maigre, avec des béquilles. Il avait perdu une jambe, mais il était vivant.
Brice rentra sain et sauf pour les plus grands bonheurs de ses parents et de Paulette. Comme promis, les deux amoureux se marièrent dans le mois qui suivit. À quoi bon attendre? Une semaine avant les noces, le garde-chasse vint chez les Beguen à l'heure du déjeuner.
Bonjour à tous, dit-il en s'asseyant au bout de la table. Je me sens fiévreux. Je crois bien avoir attrapé un coup de froid. Je vais m'aliter quelques jours. Reste donc éloigné de moi.
Jacques, tu dois être en pleine forme pour la noce de ta sœur, lui dit-il malicieusement.
Le Beguen sourit d'un air entendu. Paulette, fais donc lui un bon grog, dit Madame Beguen, en sortant une bouteille de calva. Il voudrait être en forme vivre ici la semaine prochaine. Nous espérons vous voir à la noce, à l'auberge du relais de poste. Avec plaisir, j'y serai.
Organisées un mardi, ces noces furent la première grande fête depuis longtemps. Jean Londe avait offert un tonneau de cidre pour le vin d'honneur, qui fut servi à tous. À l'auberge du relais de poste, le maire avait également apporté quelques bouteilles de cidre bouché pour le repas.
Il accompagnait parfaitement les pigeons, les lapins et les truites apportées par Jack, et cuisinées par Athelme et sa femme, un vrai festin.
Nous faisons une pause dans la lecture de ce conte pour changer le plateau, pour le finir, avec un petit intermède musical. À tout de suite.
Oh,
Et nous revoilà sur RJB, la radio des jeunes de Beuzeville, du collège Jacques Brel de Beuzeville. Nous étions en train d'écouter les élèves de 6e forum nous faire la lecture d'un conte qu'ils ont créé avec Monsieur Grant, l'historien du canton, et Madame Stuchel-Hubert, une conteuse aussi du canton avec lesquelles ils ont travaillé. Donc je vous résume un peu les épisodes précédents, avant la pause musicale. Nous sommes en 1867. Beuzeville vit sa vie de campagne avec les marchés qui fonctionnent bien, avec les chevaux, les charrettes, les paysans. Et le maire annonce la prolongation de la voie ferrée et la construction d'une gare à Beuzeville. Les gens du marché de Beuzeville sont très mécontents car ils craignent que cette gare amène d'abord des étrangers et puis aussi les prive de revenus parce qu'ils ne pourront plus vendre leurs propres produits. Alors ils sont en colère. Mais en 1870, la guerre avec les Prussiens arrive. La France est envahie et en Normandie, c'est le chaos et tous ces gens sont ruinés. Alors, tout compte fait, à la fin de la guerre, lorsque les gens n'ont plus rien, est-ce que cette guerre ne serait pas une si mauvaise idée? Voilà où nous en sommes. Je vous laisse avec les élèves de 6e forum.
Jean-Londres réunit sans attendre le conseil municipal. Nous avons tous subi de lourdes pertes avec la guerre. Nous avons perdu des proches, nos ouvriers. Certains de nos soldats sont revenus handicapés.
Nos fermes et nos commerces étaient pillés. Beaucoup de personnes n'ont plus de travail. Nous n'avons plus d'argent. Et pourtant, il faut reconstruire. Nous devons relancer notre économie.
Nous sommes en mars, c'est bientôt le moment des semailles. Je sais que beaucoup d'entre vous n'a pas le cœur à se préoccuper d'autre chose que de reconstruire sa maison, sa ferme et pleurer ses disparus.
Mais nous devons nous battre pour un projet qui nous aidera tous. Une ligne de chemin de fer entre Pont-Audemer et Quetteville, avec une gare à Beuzeville, est plus que jamais d'actualité.
Interloqués, les conseillers municipaux restèrent silencieux.
Ils ne s'attendaient pas à ce que le maire mette ce projet sur la table dans un moment pareil. Ils se regardaient indécis. Puis, Anthelme prit la parole.
J'étais l'une des personnes les plus motivées contre ce projet qui allait ruiner mon relais de poste. Mais les Allemands me l'ont ruiné. Ma famille, mes ouvriers sont au chômage. C'est vrai qu'il est urgent de reconstruire, créer de nouvelles activités qui relanceraient notre économie. Je souhaiterais au moins rouvrir mon auberge et y installer mes jeunes mariés. Les uns après les autres, les conseillers prenaient la parole et imaginaient leur vie de reprendre vie.
Moi aussi j'étais contre, dit l'un des deux. J'étais éleveur de chevaux. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je vais devoir reconstituer un troupeau. Alors je ne vois plus la voie ferrée comme concurrente. Au contraire.
Carrel était opposé à la construction de la voie ferrée qui aurait anéanti sa ferme.
Oui, mais il est revenu de la guerre avec une jambe en moins. Sa femme a un enfant en bas âge. Certes, si la voie ferrée était construite, il serait exproprié d'une grande partie de ses terres et sa ferme ne serait plus viable. Mais il ne peut plus la travailler. Si nous lui proposions un emploi de garde-barrière sur la petite route qui passe par sa ferme, cette famille serait à l'abri du besoin.
Claude était farouchement opposé à la gare de Besul. Il craignait qu'elle apporte des inconnus dans sa ferme. Les Allemands n'ont pas attendu la construction d'une gare pour lui rendre visite, piller et incendier sa ferme. Son isolement ne l'a pas protégé. Claude cherche maintenant du travail. La construction de la voie ferrée va nécessiter de nombreux ouvriers. Une aubaine pour tous ceux qui cherchent du travail.
Le conseil municipal donne une carte blanche au maire pour contacter la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Celle-ci ne cacha pas les difficultés.
Le projet de la voie ferrée entre Pont-Audemer et Quetteville avec une gare à Besul est en concurrence avec celui passant par Berville. C'est l'un ou l'autre. La compagnie de l'Ouest n'a pas les moyens de faire les deux voies. Vous êtes les premiers à réagir. Berville n'a pas encore donné suite. Cependant, tous les problèmes ne sont pas réglés. Votre tracé est très difficile en raison du relief. C'est un projet coûteux. Les caisses de l'État sont vides. Il faudrait que votre commune apporte une forte participation financière.
Dès son retour, le maire rendit compte à son conseil municipal. Il ne voulait pas s'avouer vaincu. Nous ne pouvons pas lever d'impôts supplémentaires. Nos citoyens sont ruinés. Il nous faut trouver un moyen de financer cette voie ferrée. Cette gare est importante, non seulement pour Besul, mais aussi pour tout le canton.
Le conseil municipal discuta jusqu'à tard dans la nuit. Les discussions furent longues, difficiles, mais fructueuses. Au petit matin, à l'unanimité, il avait décidé d'organiser un grand concours régional agricole qui devrait financer en partie la participation requise.
L'idée d'une grande foire agricole régionale avait séduit tout le monde. Mais avec quels animaux ? Leur population avait été considérablement réduite pendant la guerre. La reconstruction des effectifs demandait du temps.
C'était sans compter sur la motivation et l'imagination du comité d'organisation de la foire. Il annonça avant la fin de l'année 1871 un grand concours agricole régional pour le 5 septembre 1875. Cela donnait 4 années aux éleveurs pour reconstituer leurs troupeaux et suffisamment de temps à chacun pour se mobiliser et se préparer.
La grande foire agricole régionale de Besul, minutieusement préparée, eut un très grand succès. Toutes les espèces animales de la région étaient représentées et chacune d'entre elles était déclinée. Pour les chevaux, juments, étalons, poulains par race. Idem pour les vaches, cochons, moutons, chèvres, lapins, poules, canards, oies, pigeons.
Les fruits et les légumes étaient également au menu du concours. Les plus gros choux, courges, les plus belles pommes, le meilleur cidre, poiré, cidre bouché, les concours de tartes aux pommes eurent un grand succès.
Grande nouveauté pour cette manifestation, les outils et machines agricoles étaient à l'honneur.
Le comité avait également organisé des concours d'orphéons, de fanfares et de musique d'harmonie. Ils invitèrent les associations musicales de Villers-sur-Mer, Le Havre, Oissel, Pont-Audemer, Cormeilles, qui répondirent sans hésiter. Compte tenu de la diversité des concours, chacun était invité à s'inscrire à plusieurs catégories.
Les nombreux prix étaient offerts par les personnalités locales, commerçants, maires, banquiers, récepteurs, députés, aubergistes.
C'était là aussi un vrai concours entre donateurs.
Cerise sur le gâteau, le comité invita de nombreuses personnalités conseillers générales, députés, maires et conseillers municipaux du canton et des cantons voisins. Propriétaires terriens, notaires, banquiers, percepteurs, un banquier payant.
Ils étaient invités à venir en famille.
Chaque participant devait s'inscrire et payer son inscription un mois avant le début de la foire. Le comité d'organisation s'était dépassé. La grande foire agricole de Besul du 5 septembre 1875 fut un immense succès, à un tel point que dès le début août 1875, le montant des diverses inscriptions approchait la demande de participation au financement de la voie ferrée de la gare de Besul.
Cette information ne pouvait rester confidentielle. Dès l'ouverture de la foire, le préfet, le représentant de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et le maire de Besul félicitèrent les participants d'avoir si bien répondu à l'invitation de ce grand concours agricole. Et ils annoncèrent que le projet de construction des 16 km de voies ferrées de Pont-Audemer à Quetteville avec une gare à Besul était près de se concrétiser.
Cette bonne nouvelle galvanisa tous les participants. Ils étaient portés par l'enthousiasme, les programmes des festivités mis en vente s'arrachaient, des dons se multipliaient. Les ventes des produits agricoles, dont une part revenait au projet de la voie ferrée, n'avaient jamais connu un tel engouement. La participation au financement fut largement atteinte et elle fut annoncée juste avant le banquet du soir sous les applaudissements des convives et des personnalités locales.
La construction de la voie ferrée entre Pont-Audemer et Quetteville avec une gare à Beuzeville fut un très gros chantier, long et difficile comme prévu. Il nécessita la mobilisation de nombreux ouvriers, relancèrent de nombreuses d'activités et en créèrent de nouvelles. Elle aida la région à se remettre de la guerre. En 1889, la gare de Beuzeville fut inaugurée avec les mêmes personnes et la même ferveur.
Et voilà, le conte est écrit par les enfants est terminé. Et nous avons sur le plateau avec nous Monsieur Grant, qui, pour conclure cette expérience d'écriture de conte, va répondre à quelques questions préparées par les élèves. Voilà, pour nous faire connaître, nous savoir qui il est et pourquoi il en est à savoir autant de choses sur le canton de Beuzeville. Alors, quelle est la première question?
On va commencer par vous poser des questions sur votre vie personnelle et professionnelle, puis sur les interventions que vous avez faites. Quel âge avez-vous?
Bonjour, oui. Bravo pour votre travail, tout d'abord. Ça, ce rappel historique est tout à fait réel et bravo à vous. Quel âge j'ai? J'ai 67 ans.
D'accord, merci. Depuis combien de temps travaillez-vous avec le collège?
Avec le collège, ça fait... j'ai travaillé pendant 40 et quelques années avec le collège. Et de tout temps, depuis 6, 7, 8 ans même peut-être, avec les professeurs, pour intervenir sur le patrimoine, pour les aider justement à orienter certains débats, certaines créations.
D'accord. Pourquoi venez-vous faire des interventions dans le collège?
Parce que avant tout, je suis collectionneur. Je suis collectionneur de cartes postales anciennes, de photos, de vieux papiers, dont je connais bien l'histoire. Mais un collectionneur, son but c'est quoi? C'est de partager. Donc quand les professeurs ont besoin de renseignements historiques, locaux, ben j'interviens, je suis sollicité, donc je viens avec grand plaisir. Et ça me fait plaisir de travailler avec vous, avec les élèves, sur différents sujets.
D'accord. Travaillez-vous avec d'autres collèges?
Non. Il y a une exclusivité à Beuzeville.
Pourquoi collectionnez-vous les cartes postales?
Parce que j'étais attiré depuis longtemps, depuis ma jeunesse, d'abord philatéliste. Ça m'apprenait beaucoup de choses. Et puis après, collection de photos, de vieilles photos anciennes. J'ai voulu tout simplement en collectionner pour mieux connaître mon village, pour connaître sa vie, etc., son évolution. Mais lorsque vous voyez une carte postale avec quelques bâtiments, moi, j'en suis pas resté là. J'ai voulu rechercher l'ensemble de l'histoire qui correspondait à chaque bâtiment, à chaque quartier de la ville.
Depuis combien de temps?
Depuis un demi-siècle.
Quelle est la plus grosse vieille carte que vous possédez?
Alors, j'ai des cartes postales avant 1900. Mais en photo, j'ai une photo de l'inauguration de la maison de retraite de Beuzeville, l'ancien hospice, de 1876. C'est la plus vieille photo connue sur Beuzeville.
Pourquoi collectionnez-vous les étiquettes de fromage?
Ah, ça, grande question. Bah, tout simplement parce qu'il y a aussi des fromagers sur Beuzeville. Donc, je me suis intéressé à cette collection. Oh, je me suis arrêté rapidement parce que il y a eu quelques fromagers et ça s'est vite arrêté. Hein. Et vous connaissez le nom d'un collectionneur d'étiquettes de fromage?
Non.
Ah bah mince alors. Tyrosémiophile. De Tyros en grec fromage. Tyrosémiophile. Collectionneur d'étiquettes de fromage. D'accord?
D'accord. Depuis combien de temps?
Ah, pareil, les étiquettes, non, ça a été une lubie, ça a été sur une ou deux années. Et puis, je me suis vite arrêté. Hein. Il y avait un fromager, principalement sur Beuzeville. D'un clat, d'ailleurs, qui a commencé à Beuzeville et qui s'est développé sur Pont-Audemer. Donc, j'ai voulu en chercher plus, mais on a très peu de renseignements. Donc, ça n'a pas duré dans le temps. Non, non, ça a été assez bref.
Merci.
vous concentrez-vous sur des régions particulières ?
C'est très rapide. C'est Besuil et l'ancien canton de Besuil. Les 15 communes proches du chef de l'ancien chef-lieu de canton de Besuil.
Combien en avez-vous ?
Je ne sais pas. Parce que j'ai des cartes postales, mais aussi j'ai des milliers de photos et de négatifs. Donc ça se compte plus par milliers que par dizaines.
Okay. Comment trouvez-vous ces cartes et ces étiquettes de fromage ?
Alors, sur Internet, mais beaucoup dans les foires à tout, par des échanges. Lorsque je rencontre quelqu'un et puis qui a pu trouver à droite, à gauche une carte postale que j'ai pas, si j'ai un double, bah, je vais essayer d'échanger pour l'obtenir. Mais aussi, maintenant, c'est beaucoup Internet, vous savez, comme pour tout. Je vous en prie.
Pourquoi avez-vous choisi Besuil ?
Pourquoi j'ai choisi Besuil ? Parce que je suis né à Besuil.
Okay,
donc,
merci.
C'était facile de continuer puis de vouloir m'enrichir sur, justement, savoir ce qu'était mon village autrefois.
Ok.
Qui pose la question suivante ?
Bah, aussi.
Ethan ?
Quelle étude avez-vous fait ?
Alors, j'ai fait des études de comptable-mécanographe, comptabilité. Mais c'était pas passionnant, à mon avis.
Question suivante.
Quel est votre métier ?
Alors, j'étais pendant plus de 40 ans le directeur général des services de la communauté de communes, jadis appelée les syndicats intercommunaux. Parce que pour votre information, dès 1890, existaient des syndicats intercommunaux. L'idée était déjà venue de dire, si on se rassemble pour créer quelque chose, on va mieux y arriver. Donc c'est très ancien, l'intercommunalité.
Quelles ressources prenez-vous pour connaître ce que vous nous avez à présenter, l'histoire du chemin de fer à Besuil ?
Alors, toutes les ressources possibles, c'est-à-dire les archives, premièrement les archives municipales, avec les registres de délibération, parce que la plupart des textes que vous avez pu rédiger proviennent du registre. Ce sont des délibérations au sein du conseil municipal, des échanges de lettres avec le conseil départemental et les compagnies de chemin de fer qui décidaient telle ou telle chose. Automatiquement, les courriers arrivaient au maire, le maire demandait à son conseil de prendre des décisions. Donc on retrouve tous ces courriers, ces échanges. Il suffit de les collationner et chronologiquement, on reconstruit l'histoire du chemin de fer.
Qu'est-ce qui vous a inspiré l'étude de la ville de Besuil ?
Ben, c'est d'être né à Besuil, d'avoir été à l'école à Besuil, et puis de travailler à Besuil, d'être un Besuilé, quoi. Donc, on tient à mieux connaître sa ville, donc c'était mon cas.
Travaillez-vous que sur l'histoire de Besuil ou sur d'autres villes ?
Alors, principalement, c'est Besuil, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été, et c'est encore un petit peu, sur les 15 communes alentour. Je dirais Berville-sur-Mer, Bouleville, Conteville, Fatouville, Fitfleur, Formoville, Lalande, Banneville-la-Raoul, Martinville, Saint-Maclou, Saint-Pierre-du-Val, Le Thor, Vanécro. Vous voyez, les 15, ça forme 16 communes sur l'ancien canton, et j'ai travaillé sur l'ensemble de ces communes. J'interviens aussi ponctuellement, comme j'ai fait il y a à peu près 15 jours, sur l'école de Fitfleur, par exemple, pour discuter avec les élèves du patrimoine local de leur commune, pour les inciter à mieux connaître et peut-être à trouver des documents. D'accord ? Et peut-être collectionner des photos, des cartes postales du village. Mieux découvrir son village, c'est important. C'est du patrimoine.
Est-ce que vous travaillez seul ou avec d'autres personnes ?
Seul. Je maîtrise.
Avez-vous fait des expositions ?
J'ai fait des expositions maintes et maintes fois. Je me suis même exporté avec les relations que l'on a avec le Québec, et les jeunes Besuilais partis en 1646 et 1660 pour le Québec, pour aller en Nouvelle-France. J'ai eu l'occasion en 1996 d'emmener quasiment toute ma collection de cartes postales de photos pour exposer dans le lycée de Sainte-Anne-des-Beaupré l'ensemble des documents sur Besuil, parce que toute leur famille, leurs ascendants, leurs aïeuls étaient originaires de Besuil. Donc là, j'ai exposé donc au Québec. Mais encore dimanche dernier, j'ai exposé à Besuil sur l'histoire des résistants de Besuil. Donc fréquemment, à l'occasion, j'interviens pour exposer dans tel ou tel domaine. Ça peut être les sapeurs-pompiers, ça peut être l'adduction d'eau, ça peut être plein de choses. Tout s'y touche Besville.
Avez-vous des traces écrites de ce que vous cherchez?
Oui. J'ai des traces écrites, les archives alors départementales, ça peut être des archives nationales, ça peut être aussi Gallica, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale de France. On trouve énormément de choses, donc c'est infini. Il suffit de chercher, on trouve. La plupart du temps.
Dans quel lieu allez-vous pour trouver vos informations?
Alors, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est les archives communales surtout, les archives départementales aussi, mais tout ce qui a été édité, comme les journaux par exemple, toute la presse locale. Il y a un journal qui a été édité à partir de 1887. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez de 1889, le chemin de fer à Besville. Mais en 1887, Monsieur Théodore Lefebvre, qui était typographe à Pont-l'Évêque, est venu créer une imprimerie, librairie à Besville, et sortait imprimer le journal de Besville jusqu'en 1940. Lorsque vous reprenez ces documents, vous retracez la vie quotidienne de Besville.
Combien de temps cela vous prend?
Je dirais autant que vous par rapport aux heures que vous passez à l'école et à faire vos leçons. Moi, c'est du quotidien, c'est tout le temps.
Comment organisez-vous vos recherches?
C'est ponctuel, c'est en fonction des événements. Donc, je me lève très tôt, mais très très tôt. Ça peut être 4h30, 5h. Donc, je suis déjà allé chercher à droite, à gauche, à constituer des dossiers. Et c'est sans fin, quoi. Donc, en fonction des événements, je travaille, je m'oriente, je cherche. Je m'organise.
Que faites-vous de vos informations?
Alors, les informations, la plupart du temps, comme j'ai pu faire d'ailleurs pour le collège, pour les 50 ans du collège, j'ai retrouvé tous les articles en ma possession pour reconstituer l'histoire du collège. Depuis la formation des écoles primaires de Besville de 1842 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai une vingtaine de classeurs que je range, par exemple pour le collège, suivant les dates des différents principaux qui ont été à Besville. Et je garde tout, et encore maintenant, s'il y a des activités, si je vois que vous réalisez des choses, des sorties, il y a donc un article qui sort dans la presse, je garde l'article et je le mets dans le classeur concerné.
D'accord.
Donc, j'ai un suivi quotidien.
Comment les stockez-vous et les rangez-vous?
Alors, souvent, c'est chronologiquement, mais ça me pose des problèmes parce que je manque de place. C'est un gros souci majeur, ça. Parce qu'en plus, je suis connu pour collectionner, pour conserver. Donc, lorsque les gens rangent leur grenier, tout ça, puis il y a des archives, on vient me les apporter. Alors, j'en ai effectivement beaucoup. Mais je manque de place un petit peu, quoi.
Avez-vous une salle dédiée pour travailler?
Oui, j'ai un bureau pour travailler. Et j'ai une pièce de 40 mètres carrés pour stocker toutes mes archives, en plus de mon bureau.
Ok. Avez-vous déjà écrit des livres?
Oui, j'en ai fait 5 sur Besville. Le premier en 1999. Les années 1900 dans le canton de Besville.
Okay. Est-ce que ce sont des récits historiques ou des récits de fiction?
Tout est historique. Moi, je suis pas romancier, je suis pas écrivain. Je suis pas assez bon en français, en rédaction, c'est pas... Par contre, je connais bien l'histoire. Donc, lorsque j'ai des cartes postales très très anciennes, il suffit que je raconte ce que racontent les cartes postales, tout simplement. D'accord. Lorsque j'ai des cartes postales de mairie ou d'autres bâtiments, ben j'explique tout simplement leur évolution. Donc, ce sont à chaque fois des faits véridiques, évidemment.
Alors, Monsieur Grant, après ces questions sur votre métier, Enzo a une question de retour sur la construction de la gare.
D'accord.
Pendant combien de temps la gare de Besville a-t-elle fonctionné?
Alors, la gare de Besville, donc inaugurée le 8 juin 1889, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle va fonctionner jusqu'en 1969 pour les voyageurs. un petit peu plus tard pour la marchandise, puisqu'on a la centrale Système U qui s'est installée une vingtaine d'années, avec un accès sur le réseau ferré. Sauf qu'en 1991, il y a eu un accident et un chauffeur est venu justement frapper à mon bureau pour me dire « je suis le conducteur de la locomotive et le train a déraillé ». Donc à partir de là, il a fallu déjà réparer en 1992 pour remettre la ligne en état, mais c'était que provisoire, ça n'a pas duré longtemps après.
Voilà, les élèves de 6e forum ont fait le tour des questions. Merci beaucoup Monsieur Grant d'abord d'être là encore une fois cette année et puis d'avoir accompagné les élèves pendant toutes ces semaines pour l'écriture de ce conte avec Madame Stuchel-Hubert. On vous dit au revoir et remercie encore.
Et merci à vous et bravo pour ce travail et puis c'est un plaisir. Je suis toujours disponible si vous avez d'autres sujets à aborder pour vous donner un petit coup de main. Bravo à vous et bon courage.
Et respiration musicale avant l'émission suivante.